à la limite. 48 fois la mer.
Marc Roger, que vous suivez fidèlement sur les ondes de Radio Grand Ciel, a, comme vous le savez, repris la route, arpentant les chemins du littoral. Il est arrivé aux portes de la Bretagne, traversant sans frémir la baie du Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel qui sera la star de notre émission du jour. Mais retrouvons sans plus tarder Marc Roger. Marc, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour Radio Grand Ciel.
Marc, c'est un plaisir de vous retrouver en chemin sur le littoral. Le Mont-Saint-Michel est à présent derrière vous, mais dites-nous où vous êtes et ce que vous voyez.
Alors, je suis assis au pied de la jetée du port de Cancale, avec le rocher de Cancale en ligne de mire, et un petit peu plus à l'est, le Mont-Saint-Michel tout petit dans la brume sous un petit peloton de nuages blancs. Voilà ce que je vois.
Alors, vous avez fait le choix de contourner le Mont-Saint-Michel au lieu de le traverser, comme on sait que c'est possible, avec des guides, évidemment. Mais là, vous l'avez contourné, ça fait que depuis presque une semaine, vous avez le Mont-Saint-Michel en ligne de mire, alors.
Oui, depuis la pointe au sud de Granville, je longe le littoral en contournant. C'est un choix que j'ai fait parce qu'il me semble important de garder ce mystère en point de repère, au milieu de cette immense baie faite de vases, très très plate, où les courants de marée montante et descendante sont les plus puissants d'Europe. Et le fait de contourner, eh bien, on a des points de vue qui ne cessent de changer au fur et à mesure de son avancée sur le sentier de randonnée. Alors, pour moi, c'est un grand poulpe avec de multiples tentacules, ce Mont-Saint-Michel au milieu de son écrin maritime et terrestre. Et Victor Hugo a une très belle parole sur cet échange entre la mer et la terre. Il dit ceci: elle s'offre comme une plaine, cette baie, elle s'offre comme une plaine et s'ouvre comme une onde, la terre pénétrée d'océan qui peut devenir piège. Victor Hugo dans Les Misérables. Et on pénètre dans les méandres de la C ou de la C-Lune, le Mont-Saint-Michel disparaît. Au détour d'une pointe, hop, il arrive comme un mirage sur un plateau d'herbu, constellé de milliers de moutons, crème, couleur café crème, aux pattes noires café et tête noire café. C'est un spectacle dont je me suis régalé pendant une semaine.
Eh oui.
Et alors, maintenant,
effectivement, le Mont-Saint-Michel, c'est quand même, ça reste un paradoxe parce que, évidemment, le flux continu des touristes en font un grand barnum, comme pour reprendre votre expression, Marc. Mais c'est un endroit qui, malgré tout, garde quelque chose de hiératique, de noble et d'assez mystérieux. Même à l'intérieur du Mont-Saint-Michel, on trouve des petits bouts de remparts qui, tout à coup, nous emportent.
Oui, moi. Je suis évidemment en admiration devant cette merveille d'architecture et puis ce lieu de spiritualité pour celles et ceux qui vont là en pèlerinage depuis plus de 1000 ans.
Hein. Ouais, ouais.
Moi, je viens en tant que poète, randonneur, arpenter ces ruelles et avoir un point de vue circulaire, puisque les remparts permettent de se promener sur 360 degrés. Et je dois dire que je préfère la vue autour que la vue depuis le centre. C'est un peu un changement de perspective, comme lorsque l'on est enfant et que l'on regarde un manège. On se dit « Oh, j'aimerais bien monter sur les chevaux de bois ». Et quand on est sur les chevaux de bois, on regarde autour de soi, on tourne et on voit la vie qui encadre le manège. Alors, c'est une métaphore un peu étrange par rapport à la spiritualité du lieu, mais je préfère regarder le manège que de regarder depuis le manège.
Le grand manège du Mont Saint-Michel. Marc, évidemment, la marche, il faut faire avec les aléas de la météo. Quand on fait un voyage comme le vôtre, on choisit pas les jours de beau temps spécialement pour mettre le nez dehors, c'est tous les jours. Et quand il pleut et quand il y a de la brume, ben faut quand même y aller.
Ah oui, là quand j'ai quitté, ça a été exaltant jusqu'à l'arrivée au Mont-Saint-Michel parce que le sentier est très varié et très bucolique. Le printemps explose de toutes parts. Il y a des animaux partout, des lièvres, des lapins, des poules faisanes, des pigeons ramiers, des oiseaux. C'est vraiment une réserve naturelle prolifique. Et quand on quitte le Mont-Saint-Michel et qu'on va vers Cancale, là on suit une digue droite sur 10, 15, 20 kilomètres, une digue rectiligne qui sépare tout simplement les polders, ces terres gagnées sur la mer, où l'on cultive la pomme de terre et les primeurs, asperges et autres. Et de l'autre côté de la digue, vous avez les herbus où paissent les moutons. Alors, quand s'ajoute à cela la brume, comme il y a deux jours, et puis hier, s'ajoute la pluie battante. C'est moins agréable, mais c'est pour arriver à Cancale et dans son port et ses parcs d'huîtres où là devant moi, j'ai un soleil éclatant qui domine les parcs avec une trentaine de tracteurs à l'œuvre.
Ainsi vont les voyages, cher Marc. Et il est temps de nous quitter. Et on va se quitter justement avec Victor Hugo. Ce passage des Misérables qui est incroyable parce que on a l'impression d'y être. Et vous allez certainement vous en rendre compte, chers auditeurs. On n'a pas besoin du cinéma, on n'a pas besoin de la télé. On a juste à écouter Marc Roger qui nous lit Victor Hugo. À très bientôt, Marc.
À très bientôt et soyez prudents en écoutant Radio Grand Ciel.
Il arrive parfois sur de certaines côtes de Bretagne ou d'Écosse qu'un homme, un voyageur ou un pêcheur, cheminant à marée basse sur la grève loin du rivage, s'aperçoit soudainement que depuis plusieurs minutes, il marche avec quelque peine. La plage est sous ses pieds comme de la poix. La semelle s'y attache. Ce n'est plus du sable, c'est de la glu. La grève est parfaitement sèche, mais à tous les pas qu'on fait, dès qu'on a levé le pied, l'empreinte qu'il laisse se remplit d'eau. L'œil, du reste, ne s'est aperçu d'aucun changement. L'immense plage est unie et tranquille, tout le sable a le même aspect, rien ne distingue le sol qui est solide du sol qui ne l'est plus. La petite nuée joyeuse des pucerons de mer continue de sauter tumultueusement sur les pieds du passant. L'homme suit sa route, va devant lui, appuie vers la terre, tâche de se rapprocher de la côte. Il n'est pas inquiet. Inquiet de quoi? Seulement, il sent quelque chose comme si la lourdeur de ses pieds croissait à chaque pas qu'il fait. Brusquement, il enfonce. Il enfonce de 2 ou 3 pouces. Décidément, il n'est pas dans la bonne route. Il s'arrête pour s'orienter. Tout à coup, il regarde à ses pieds. Ses pieds ont disparu. Le sable les couvre. Il retire ses pieds du sable. Il veut revenir sur ses pas, il retourne en arrière, il enfonce plus profondément. Le sable lui vient à la cheville. Il s'en arrache et se jette à gauche. Le sable lui vient à mi-jambe. Il se jette à droite, le sable lui vient au jarret. Alors, Il reconnaît avec une indicible terreur qu'il est engagé dans de la grève mouvante et qu'il a sous lui le milieu effroyable où l'homme ne peut pas plus marcher que le poisson n'y peut nager. Il jette son fardeau, s'il en a un. Il s'allège comme un navire en détresse. Il n'est déjà plus temps. Le sable est au-dessus de ses genoux. Il appelle, il agite son chapeau ou son mouchoir, le sable le gagne de plus en plus. Si la grève est déserte, si la terre est trop loin, si le banc de sable est trop mal famé, s'il n'y a pas de héros dans les environs, c'est fini. Il est condamné à l'enlisement. Les Misérables de Victor Hugo.